Le masque et la plume. Bonsoir à tous, bienvenue en public au studio. Sacha Guitry de la Maison de Radio France pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec le musical de la critique et notre Sid Charisse à nous, et Daniel Eman de Marianne, ainsi que nos, que nos Fred Astaire, j'ai nommé Xavier Le Herpeur, de 7ème Obsession, Pierre Murat de Télérama, et surtout Jean-Marc Lalanne des Inrecuptibles. On parle ce soir, si vous ne l'aviez pas compris, du film de Damien Chazelle, mais également un petit peu en avance du nouveau Scorsese, des films de Pablo Larraine, Ang Lee, Barry Jenkins, Hong Sang-soo et Hong Sang-dani Boon dans le courrier de la semaine, encensé au masque et la plume, le Neruda de Pablo Larraine, à ses détracteurs, Josiane Mabic, remercie Jean-Marc Lalanne. Je me sentais bien seul dans ce concert de louanges du masque à propos de Neruda, film que j'ai détesté. À chaque apparition de Gael Garcia Bernal, j'avais envie de rire en me demandant si je ne regardais pas un film comique. Peut-être avais-je gardé en tête le très beau film Le Facteur et idéalisé Pablo Neruda. Même sentiment de Jean-Jacques Corriot d'Aix-en-Provence. Le film de Pablo Larraine regorge de scènes caricaturales et le spectateur a toutes les raisons de se sentir floué. Pierre, qui habite ici les Moulineaux, nous dit, je vais aller voir ce film, la fleur au fusil, j'en suis ressorti, les cactus à la baïonnette, étant resté péniblement jusqu'à la fin. C'est un film boursouflé, grandiloquent, sans l'once d'une émotion, autosatisfait, qui se mire et s'admire dans un miroir de poèmes déclamés avec une solennité horripilante. Sans rancune, mon très cher masque, Julien Demangea de Bruxelles regrette que la reine ne sache pas quel genre attaquer, ni choisir, film introspectif, biopic, classique, film historique, polar, avec un choix non assumé de mise en scène. Pardon, Pierrot ?
C'est ça qu'il a voulu, on peut lui reprocher ce qu'il a voulu.
Mais ça, c'est des gens qui sont d'accord avec Jean-Marc, pas avec toi.
On peut lui reprocher de ne pas maîtriser ce qu'il a voulu aussi.
Oui, mais c'est pas...
Alors, en revanche, Barbara Trimbach de Verrières-les-Buissons, elle a aimé justement cet OVNI, objet filmique nouvellement identifié, pseudo-biographie à la créativité si profonde qu'elle en devient une œuvre inclassable, ainsi que Christine Fink, qui nous dit que Neruda est un beau film, un conte où le poète et le policier ne font parfois plus qu'un, et la fin magnifique. À propos du film de Lisa Azuelos, j'ai reçu beaucoup de courriers, je vais pas tout lire, il y a des limites, mais Rémi Maury s'énerve. Vous avez le droit de ne pas aimer le film et de le critiquer, de ne pas aimer la chanteuse, mais respecter la femme d'Alida. Qui êtes-vous pour parler d'elle en la traitant de piaffe du pauvre? Mais ça, c'est l'expression, elle était de notre ami Michel Simon. C'est pas la piaffe du pauvre, d'Alida.
Non.
Et Jean-Paul Durand, j'adorais Dalida, je suis allé voir le film avec une certaine appréhension, mais j'en suis ressorti assez heureux et ému. Le film ne mérite pas l'indignité dont vous l'avez accablé. L'actrice principale est formidable, ça c'est vrai qu'elle est très bien. Elle incarne bien Dalida, ce qui n'était pas gagné, non, ça c'est vrai. Un roman photo, un grand mélo qui convenait très bien à la vie extrêmement romanesque de Dalida, à la fois sainte et martyre. Oh, sainte et martyre... Mais soit tu parles, je prends le micro.
Je grommelle dans mon coin.
Il ne faut pas grommeler. Pour finir, c'est très joli, c'est un poème que nous adresse Marguerite, Maud et Céline, jeunes auditrices londoniennes et parisiennes. À l'aube de notre semaine, le masque prend l'antenne. Pour nos oreilles enchantées, susurre ses méchancetés, ses conseils, ses coups de cœur, toujours avec ardeur. Humour et esprit sur les ondes, tantôt caresse et tantôt gronde. Les amoureux des salles obscures que cet amour toujours perdure. De part et d'autre de la Manche, France Inter le dimanche, vous nous procurez tant de grâce que nos ouïes ne se lassent. Comme la fin est très très gentille pour moi, je ne la lirai pas.
Quelle modestie.
Voilà. Vous voulez vraiment ?
Oui.
Quelle cocotte.
Et si le banc des critiques masquait nos âmes d'enfants ont chaviré, c'est quand Jérôme prend la parole que notre cœur conquis s'affole. Et c'est au pied de notre archange que nous déposons ses louanges.
Wow.
Oh là. Ah. Ah.
Vous l'avez cherché, hein. Et on commence évidemment avec La La Land, 14 nominations aux Oscars, la comédie musicale de Damien Chazelle, petit prodige de 30 ans, et des poussières, le cinéaste de Whiplash, faut-il le rappeler. Et c'est avec Emma Stone et Ryan Gosling sur une musique de Justin Hurwitz, un film de 2h08, une ode... je vois que Pierre prend des notes. Une ode à Los Angeles qui s'ouvre la ton assez répété par, il faut le dire, un éblouissant ballet sur les toits des voitures dans un embouteillage monstre d'une bretelle d'autoroute. Un plan séquence qui ouvre l'histoire d'amour contrarié entre Maya, c'est Emma Stone, serveuse de bar et actrice débutante, et Sébastien. C'est Ryan Gosling, un jeune pianiste de jazz de club, les deux rêvant évidemment de connaître et la passion amoureuse et la gloire, l'occasion d'une grande balade dans la Cité des Anges. Ça va de l'Observatoire Griffith au studio d'Hollywood, avec un épilogue très mélancolique que va nous raconter dans quelques instants Pierre Murat. Murat, un des rares critiques à n'avoir pas goûté cette version américaine des Demoiselles de Rochefort ou des Parapluies de Cherbourg, a parlé, je te cite dans Télérama, d'insignifiance.
Ouais.
Ce film, ajoute-tu, indiffère totalement.
Parle pour toi.
Ben oui.
Non, mais je
parle pour moi. Oui, forcément.
Oui, ben, il s'est permis de parler pour personne.
Je ne parle pas pour toi. D'ailleurs.
J'ai vu des gens sortir. Moi, je l'ai vu en salle. Très heureux. Faut le dire, plutôt euphorique. Et je dois à la vérité de l'émission, mais je garde ça pour la prochaine, de vous dire que j'ai reçu beaucoup, beaucoup de courriers qui vont plutôt dans le sens de Pierre Murat. Mais je trouvais pas juste de les lire avant que vous vous exprimiez les uns et les autres. Pierre, veux-tu exprimer quelques réserves ?
Oui, quelques réserves, parce que je crois que c'est très raté, quoi. Moi, je suis un fan absolu de comédie musicale. Et alors, on en a tellement plus que dès qu'on voit l'ombre d'une se pointer sur les écrans, ce qui est très rare, tout le monde est tellement euphorique à l'idée de voir des gens chanter, danser, se rencontrer, s'aimer, se quitter, etc., qu'on en oublie absolument comment c'est fait. Mais on est aussi des critiques de cinéma, donc indépendamment de l'euphorie, le bonheur de voir une comédie musicale à l'ancienne, mais qui est ratée, on peut dire simplement qu'elle est ratée. Le mec avait fait un film...
Pierre, sérieusement, les yeux dans les yeux, comme dirait Cahuzac. Le plan séquence d'ouverture...
Alors, le plan séquence d'ouverture est le seul ballet qui se tienne. Il est très inspiré des Demoiselles de Rochefort, oui. En effet, oui, de Jacques Demy. Quand même, moi je suis un fan éperdu de Jacques Demy, mais dans les Demoiselles de Rochefort, c'est peut-être pas la chorégraphie qui est la meilleure. C'était le style de Jacques Demy, c'était les rencontres, c'était les acteurs, c'était le charme, c'était la mise en scène. Là, en effet, c'est à peu près correct. Tout le reste... Et le mec ne sait, mais c'est pas grave. Quand il filmait le jazz dans Whiplash, il le filmait bien parce qu'il connaissait son truc. Il ne sait pas filmer un ballet. C'est très compliqué de filmer un ballet. Très peu de gens le savent. Stanley Donen, Vincente Minnelli savaient placer la caméra là où il fallait pour que l'on voit, pour qu'on soit ému. Là, c'est complet. Il peut filmer n'importe quoi, ce serait pareil. Les acteurs. Alors moi, j'aime bien Ryan Gosling qui a quand même beaucoup de charme. Je dois dire. Mais elle, que j'ai tant défendue dans les deux films de Woody Allen, me fait des mines, des mous. C'est une catastrophe. C'est de l'actrice américaine type que le metteur en scène est trop débutant encore pour tenir un tout petit peu. Et alors, quant à l'histoire, c'est-à-dire le couple qui s'aime, etc., oui. etc., attendez, mais enfin, mais il faut avoir quelques petits souvenirs.
Mais c'est pas pour l'histoire qu'on va voir ça.
Non, mais... Ah ben, bon, alors on va voir ça pourquoi. Si les acteurs sont pas bons, s'il n'y a pas de ballet, et si... alors pourquoi qu'on va aller voir ? L'histoire, elle a été... Enfin, moi, j'adore les couples. Regardez, par exemple, récemment, Café Society de Woody Allen. Le dénouement, ben oui, mais le dénouement était magnifique. Là, à la fin, eh ben, on s'en fout, c'est l'indifférence totale. C'est un film très moyen,
quoi.
Tu
ne la racontes pas.
Je ne vais pas la raconter.
Daniel ?
Je suis accablée. Vraiment, c'est un film
exquis et extraordinairement mélancolique. Alors évidemment, tout le monde dit « Ah, l'enchantement, le retour à la comédie musicale !» Certes, mais c'est une histoire profondément mélancolique et c'est ça que j'adore. Et ce que je trouve, bon, avec l'ouverture somptueuse, en disant « Bon, vous voulez de la comédie musicale ? On va vous en donner. » Dans un embouteillage, la couleur, l'hommage à demi, très bien. Et puis après, voilà, l'histoire, c'est le prix à payer pour caresser l'espérance de la célébrité. C'est pas une histoire tellement joyeuse. Et ce que je trouve vraiment réussi, c'est que Ryan Gosling et Emma Stone ne se prennent pas pour Fred Astaire et Sid Charis.
Mais non.
C'est pas une imitation ou une reconstitution ou une espérance d'être comme autrefois. Non, on est aujourd'hui, on est en train d'essayer de réussir, on est serveuse dans un café et on passe des auditions humiliantes pour elle, on a ça le caractère, on se fait virer des boîtes de jazz pour lui, et ils sont sur un banc, sur un paysage banal, et tout à coup, ils se mettent à danser malgré eux. Et ça, je trouve que c'est magnifique. C'est véritablement, voilà, la danse qui s'empare de
avec
leur esprit.
Avec des longueurs, quand même, disons-le.
Fred Astaire et Sid Charis dans Tous en scène.
Mais tu as essayé de revoir une comédie musicale des grandes années de la comédie musicale. C'est une autre chose. C'est plein de charme.
La dame te dit qu'on est en 2017.
Voilà.
Ah oui, mais Damien Chazelle pense très très fort à la scène de Minelli. C'est-à-dire qu'il a filme comme la scène de Parc, Tous en scène. Et je pense qu'il y a un souci. C'est-à-dire que je pense qu'il n'est pas dans la bonne distance à son objet. Effectivement, Gosling et Maston ne sont vraiment pas de très bons danseurs, mais la manière quand même un peu solennelle dont ils filment cette scène, qui si on a vu celle de Tous en scène est quand même assez embarrassante, je la trouve problématique. Après, moi j'aime bien le film quand même. C'est-à-dire que la promesse de comédie musicale pour moi n'est pas tenue, mais finalement le film intègre que ce n'est qu'un leurre en fait. Ce désir de revoir un film classique à l'ancienne et de retrouver cet émerveillement-là. Et ce qui est beau, c'est qu'au fur et à mesure qu'on suit tout le cycle de cette histoire d'amour, on danse et on chante de moins en moins. Il y a une espèce de retour du réel et de la désillusion. Et là, le film devient quand même, là je suis pas du tout d'accord avec Pierre, extrêmement prenant, et je trouve que les deux acteurs sont excellents. Et je pense que sur l'étude psychologique du délitement d'une histoire d'amour, le film est vraiment très émouvant, très incarné. Et c'est un beau film sur la désillusion. Et tout le packaging et l'emballage de comédie musicale à l'ancienne et la promesse de ce bonheur-là, je pense qu'il n'est pas tenu, mais que finalement c'est pas si grave qu'il ne soit pas tenu.
Non, parce que c'est une nostalgie.
Xavier.
Et quand il l'est, ça donne un chef-d'œuvre, c'est les parapluies de Cherbourg. Quand il l'est pas, ça donne effectivement, je suis entièrement d'accord avec Pierre, cette espèce de film tape à l'œil.
T'as pas aimé?
Ah là là, constamment dans la citation, mais c'est même pas la citation du j'ai aimé vos films, messieurs Minelli, messieurs Demi, et je vais essayer de faire aussi bien. Non, d'emblée, il dit je vais faire mieux.
Non.
C'est quand même,
non.
La scène d'ouverture, c'est apposer d'emblée le côté vous avez fait pas mal, je vais faire formidable. La scène est interminable, la scène d'ouverture, je n'en pouvais plus. Vous pensez au modèle de Rochefort, vous avez bien de la chance. Moi, j'ai eu la version longue de Fame, quand même, quand il dansait sur le taxi, et je n'en pouvais plus. Alors d'ailleurs, Fame, on y pense souvent sur les désillusions du métier d'acteur, sur la difficulté de trouver sa place. Mais au moins, le film d'Alan Parker, les morceaux musicaux duraient 2 minutes 30 et pas 8 minutes 25. C'est un type qui est constamment en train de nous montrer qu'il peut faire mieux que tout le monde, qu'il est formidable. J'avais l'impression qu'il était assis à côté de moi et qu'il me donnait des coups de coude. Eh, elle est bien ma scène. Elle est bien ta scène. Mais attends, elle est pas finie. Bah ouais, c'est bien ça le problème. Attends, je vais en remettre une couche. Attends, ils vont venir danser. Elle compte les pas, il y a un vrai problème avec Emma Stone, c'est-à-dire que elle est appliquée, elle est sage, elle est gentille, elle met les mains là où il faut, les pieds là où il faut.
Elle est
constamment en train de regarder ses chaussures justement pour être sûre de ne pas se prendre les pieds. C'est un peu problématique, lui, il se souvient.
Mais le film abandonne la danse au bout d'une heure, en fait. C'est-à-dire que dans la deuxième partie, il y a presque plus ça dans le problème.
Il y a une heure, la scène où elle se maquille avec les copines inspirées de Grease.
C'est tout début.
C'est quand même un navet qui dure 4 minutes où elle la ripolline comme ça, un grand coup de
couteau. Regarder ta montre.
Parce qu'il y a aucune dramaturgie dans ces scènes-là. Il y a que du tape à l'œil, il y a que de l'esbrouf, il y a que de la mise en avant. Moi, la comédie musicale, il faut que dans les grandes comédies musicales, il faut que le numéro musical nous raconte quelque chose. Est une dramaturgie, est une vraie raison.
Moi, on va raconter quelque chose.
Ben moi, alors je suis majorité ravi, moi aussi. Pas du tout. Et à la fin, ça m'épuise. Et ce mauvais remake des Parapluies de Cherbourg m'abasourdi à la fin. Je suis comme Pierre. Je m'en foutais comme de l'entrant parce que c'était tellement prévisible et tellement en plus sans la grâce. grâce de demi, sans l'intelligence, sans la mélancolie, mais encore une fois, avec une manière de réaffirmer les choses, d'enfoncer le clou. Moi, c'est un film qui ne me laisse aucune place.
Moi, je pense que la dernière scène est très belle, et elle est quand même différente des parapluies.
On va pas la raconter.
Non. On peut en dire un mot sans la raconter, peut-être.
À mon avis, il y aura au moins 12 ou 13 des 14 nominations aux Oscars qui sont prévues. La La Land de Damien Chazelle, est-ce qu'il y a des réactions sur ce film dans le studio? Non. Il ne sortira que mercredi prochain, c'est le contraire de La La Land. Ce n'est pas vraiment une comédie musicale, même pas du tout, on peut dire une comédie musicale.
Hélas, je l'ai beaucoup regretté.
Ça se passe pas du tout d'ailleurs à Los Angeles. Et c'est le nouveau Scorsese, Silence, film historique et même mystique, avec Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson. Et il s'inspire, Scorsese, d'un roman japonais que vous avez tous lu, de Shusaku Endo. Le film raconte le voyage que font au XVIIe siècle deux pères jésuites de Lisbonne pour retrouver au Japon leur mentor qui a disparu, qui aurait, donc c'est Liam Neeson, qui aurait renié sa foi catholique, et bien sûr, ils en doutent, et ils découvrent un pays où s'ils refusent d'abjurer, les chrétiens sont martyrisés, torturés, tués. Comment dire les choses? C'est très grandiloquent. Parfois beau, enfin, il y a des plans qui sont très beaux. C'est très très long. Alors là, 2h40.
41.
Ça compte.
Comme l'éternité, c'est très long, surtout vers la fin. Hein.
Avec des belles choses. Alors, j'ose pas le ni bon ni mauvais, mais j'ai quand même beaucoup pensé. Pendant, j'avais le temps, il faut dire. Oui, t'as pas compris, non? C'est pas grave.
Non, c'est
ni
pas grave.
Bon ni mauvais, c'est
oui.
Une...
Oui, oui, passe au Japon. Non, mais je lui explique.
Oui. Il aime pas quand on n'est pas de son avis. Hein. Tu as remarqué, oui. Pierre Murat.
Ah, si,
hein.
Ah, si, j'adore
Jean-Marc.
Ça, au contraire.
Alors, s'il y a quelque chose en commun, malgré tout, avec La La Land, c'est que le film, au bout d'une heure et demie, dans le cas du Scorsese, change complètement de perspective. Et dans La La Land, on croyait voir une comédie musicale, et c'est plutôt un film très triste sur l'amour. Là, on croit voir un film extrêmement complaisant, à destination du public chrétien américain, une espèce comme ça de poster de martyrologie chrétienne qui est pénible à plusieurs niveaux, à la fois d'un point de vue idéologique, parce que aucune référence n'est faite à l'Inquisition, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le peuple chrétien n'a été que victime et jamais bourreau dans l'histoire de l'humanité durant des plusieurs siècles. Donc c'est quand même assez problématique. Et en plus, Scorsese, pendant une heure et demie, filme la souffrance de ces prêtres torturés avec une complaisance et une sorte de raffinement cruel qui est très très embarrassant. Donc il y a vraiment une heure et demie de projection extrêmement éprouvante. Et puis au bout de la deuxième heure, tout à coup, toutes les perspectives changent et Scorsese est assez fort. L'inversion, c'est vraiment son truc. L'inversion de point de vue, c'est Shutter Island, c'est la dernière tentation du Christ. Et lorsque on voit ce personnage qui, à sa grande surprise, survit à l'effondrement de toutes ses valeurs et de toutes ses croyances, c'est vraiment assez intéressant parce que le film déconstruit ce qu'il a posé pendant une heure et demie. Alors, vraiment, pendant une heure et demie, on asphyxie d'ennui et c'est très très pénible. Et tout à coup, pendant une heure, c'est assez intéressant. Le souci, c'est qu'il y a un dernier plan qui inverse l'inversion et on se dit, là, il fait quand même un peu trop le malin, quoi. Donc, du coup, moi, je flottais dans le film. À la fois, il m'a intéressé une heure et c'est quand même globalement un peu pénible comme expérience de projection.
Xavier.
Ah, moi, je flotte pas, je coule à pic. Hein. Je crois à peu près dès les 30 premières secondes, on a un fond noir.
Oui, c'est très rapide.
On a une bande son, un bruit comme ça qui grouille et tout se tait au moment où le mot silence apparaît sur l'écran. Je lui dis, oh coco, si tu commences comme ça, va falloir tenir la distance sur 2h40 parce que c'est déjà très sentencieux. Eh ben non, ça n'était pas tant que ça par rapport au film, parce que le vrai martyr du film, c'est le spectateur, quand même. Oui, et malheureusement, nos noms ne
même
seront jamais
pas chrétien.
Même s'il n'est pas chrétien, nos noms ne seront jamais gravés dans un quelconque calendrier. Donc vraiment, je voudrais adresser une pensée à tous ceux qui vont subir ça, et personne ne l'a mérité. C'est une horreur. Je ne peux pas dire autrement. Je sais qu'il ne faut pas dire ça de Scorsese. Je sais que c'est un grand, je sais que c'est un immense. Il me suit avec Casino, mais ça fait plein de choses formidables. Je ne sais pas ce qui l'intéresse. Il a mis 25 ans à faire le film. De temps en temps, il faut renoncer à ses rêves.
Sans qu'on comprenne, parce que il voulait le faire plus tôt, mais il n'avait pas les moyens ou pas les...
Je ne sais pas.
Les moyens.
Alors, moi, la complaisance de la martyrologie, je l'ai même pas vue et j'aurais bien aimé. C'est-à-dire qu'au début, je me suis dit, oh, ben, les petits prêtres, ils vont être ébouillantés, ils vont être, ben, ouais, on va les crucifier, ça va être bien. Mais il est pas Jean Rollin, hein, là-dessus, sur la supplication des corps et des âmes, bof. Alors, on voit au début des prêtres comme ça qui sont ébouillantés avec des cuillères à trous. Bon, évidemment, il a pas assez payé ses figurants qui sont pas très, très bons. Ah! il y en a un qui crie au premier plan. C'est assez ridicule. Même la conception graphique du plan est assez pitoyable. Il y a même pas d'envie. Et pourtant, il y a de la peinture sur la martyrologie. Il y a Jérôme Bosch, hein. On en a fait des choses comme ça. Ils s'en inspirent même pas. Après, on a effectivement 2 heures de club sandwich, c'est-à-dire un martyr, des discussions sur la théologie. Tu vas abjurer? Non, je vais pas abjurer. T'es sûr que tu veux pas abjurer? Non, non, je vais pas abjurer. Mais abjure, ça sera beaucoup plus facile pour toi. Non, non, je n'abjure pas. Bon, alors comme il abjure pas, hop, un petit martyr. On en a plein, hein. Vous avez l'eau, vous avez le feu, vous avez le bouillon. Moi, j'adore tout ça. Quand au bout de 2 heures, je ne vais pas le raconter, on voit ceux pour lesquels on a tant souffert, on se dit, oui, on aurait pu y aller plus vite, hein, si c'était pour en arriver là. Peut-être pas la peine de prendre 2 heures. Effectivement, je suis assez d'accord avec Jean-Marie Hamon, il se passe un truc un peu intéressant. C'est toujours très bavard, c'est toujours en chant contre chant, assez balourd. J'ai un gros souci avec la manière dont les Japonais parlent l'anglais. On dirait du Michel Leb à tous les étages. Il y a un très, très, très méchant qui a le crâne rasé, qui dit, tu vas abjurer, tu vas abjurer. Sinon, je te coupe la tête. Moi, j'ai levé la main pour qu'on m'achève, qu'on me sorte de là. Moi, j'étais prêt à tous les martyrs, à la décapitation. On m'a laissé jusqu'au bout des 2h40. Et il y a ce plan final qui est effectivement terriblement focus et qui nous fait penser que le film est d'une idéologie mais douteuse, parce que oui, les chrétiens ont été les martyrs, mais ouais, bah, ils ont martyrisé aussi.
Ne,
hein.
Mais ne le raconte pas.
Hein. Je ne le dis pas. Ils ont eu l'imagination quand même aussi. Hein. L'Inquisition, ils savaient faire, les mecs, quand même. Il y avait du cuir, il y avait du feu. C'était autre chose quand même. Ouais. Et tout ça, c'est béat.
On est petits bras aujourd'hui.
C'est, ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est pour ça. C'est filmé avec l'espèce de béatitude, une pucelle. Ça n'est pas intéressant du tout. Il n'y a aucune distance, il n'y a aucune critique. Bon, il s'est fait plaisir.
Il me semble que tu l'as pas aimé. Hein. Il me semble. Hein.
Dire que si un jour on me dit que l'enfer, c'est de revoir en boucle Silence, je m'achèterai une conduite.
Pierrot.
Ben, je sais pas quoi dire, parce que c'est très dur à remonter.
Mais non, mais justement, j'ai rien dit.
C'est un film absolument admirable, bien entendu. C'est un film, mais splendide.
Toi, tu aimes souffrir, c'est un des plus Pierre.
Beaux, c'est un des plus beaux de Kurosawa. Alors, d'une part, faut quand même dire.
Ah, c'est un des plus beaux de Kurosawa, t'as dit ?
Oui, parce que ça rappelle Kurosawa. C'est un lapsus. C'est un plus.
Ah oui, parce que là, je me disais. C'est un des plus beaux. Là, on le perd vraiment.
C'est un des plus beaux films de Martin Scorsese, précisément parce qu'il rappelle beaucoup l'univers esthétique de Kurosawa, qui a été le maître de Scorsese. Et c'est vrai qu'il y a des plans qui sont aussi beaux qu'Agemusha et que Ran. On le voit complètement. En plus, chez Scorsese, faut quand même le dire, et pas dans les films les plus mystiques qu'il ait fait, c'est-à-dire Kundun ou La Dernière Tentation du Christ, la faute, la culpabilité et la rédemption,
oui, c'est au cœur de son
c'est
cinéma, ça,
tout le temps, c'est tout le temps là, quoi, dans Mean Streets, dans Casino et tout. Et alors, c'est pas, pour moi, c'est pas du tout un film sur la martyrologie chrétienne ni rien. C'est deux pauvres types curés qui veulent retrouver leur maître et qui arrivent dans un pays où on leur dit, alors, peut-être pas très, 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 très gentiment, mais on leur dit qu'ils n'ont rien compris.
T'as remarqué aussi, hein.
Voilà. Mais on n'a rien compris à ça que, en effet, les Japonais, je crois que Scorsese a une très grande admiration pour ces personnages japonais qui, en effet, leur disent, mais vous vous êtes trompés, ce n'est pas pour vous ici. Vous n'avez rien compris. Vous êtes des colonisateurs et vous venez ici.
C'est pas faux.
Ce qui est vrai,
mais oui. Mais ils le montrent comme
c'est
ça.
C'est pas incompatible avec la martyrologie.
Non, mais ils ne sont pas, ces deux prêtres, les deux héros, ne sont jamais présentés comme des gens formidables. Les gens formidables dans le film, c'est l'entourage. C'est ceux qui essaient de leur faire comprendre qu'ils ont tort. Alors après, c'est aussi, et j'en finirai, un film sur le sacré. Alors évidemment, Xavier, si pour toi, rien n'est sacré, c'est-à-dire, il n'y a pas une image, un nom. Non, mais je ne sais pas, je veux dire, là, pour eux, pour ces gens-là, c'est l'image du Christ. Bon, on leur dit, en effet, piétinez-la, ou même pas, effleurez-la, ça suffit, et parce que vous serez trahis vous-même. Moi, je trouve ça bouleversant, la façon dont ils le filment. Alors, c'est peut-être lent, c'est peut-être bavard, il y a peut-être des tortures, il y a peut-être des cris, mais le fait de pousser quelqu'un à renier quelque chose qui est au plus profond de soi, je trouve qu'on le montre pas tellement, tellement à l'écran, et je trouve que Scorsese le montre admirablement. Voilà.
Daniel.
Faire ça à une vieille agnostique comme moi, c'est pas bien. C'est carrément pas bien. Enfin, c'est un monument sanglant de 2h41. Alors, c'est vrai que la farandole de torture est assez intéressante. Nous avons la strangulation, l'immolation, la décapitation. Et pour faire bonne mesure, la crucifixion. Mais la crucifixion, on la raffine parce que on les crucifie, mais près de la mer. Alors, non seulement ils sont crucifiés, mais aussi noyés. Non, c'est formidable. Donc, il y a quand même une complaisance qui est, à mon avis, fâcheuse. Et effectivement, les deux prêtres portugais, plus ou moins...
Pourquoi plus ou moins?
Non, bah parce qu'ils ont...
C'est des jésuites qui sont portugais.
Oui, mais c'est des jésuites portugais qui sont des acteurs américains. Ah oui. Et voilà. Ah ouais. Qui n'endossent pas. Je veux dire, de plus en plus dépenaillés, de plus en plus émaciés. Ils sont hantés, ils sont motivés, ils sont concernés. Et je veux dire, on n'y croit pas. Je veux dire, effectivement.
Tout à l'heure pour la langue, voilà, toi, tu n'y crois pas.
Ben non, j'y crois pas. Ben non, je n'y crois pas. Je suis désolée, je n'y crois pas. Alors, effectivement, effectivement, c'est vrai que l'expiation, le péché. Et sont au cœur du cinéma de Scorsese, donc c'est pas effectivement et voilà. Et moi, ce qui me touche, c'est que de temps en temps, il ne peut pas se retenir de mettre le sacré dans son cinéma, dans La dernière tentation du Christ, Kundun, et ça, effectivement, 30 ans. Et il y a tout à coup quand même quelque chose qui m'a ému, qui finalement est en dehors du film, mais qui est quand même ce film, c'est-à-dire qu'on n'en finira jamais de tuer au nom de Dieu. Et voilà. Et ça, tout à coup, ça m'a ramené à notre époque. Je me suis dit, bon, probablement, c'était pas sans souci, mais moi, tout à coup, ça m'a dit quelque chose.
Silence de Martin Scorsese. Je vous demande pas ce que vous en pensez, puisqu'il ne sort que mercredi prochain. On va aller un peu plus vite, si on veut évoquer d'autres films ce soir. Un mois donc après Neruda, le Chilien Pablo Larraín, dont on parlait dans le courrier, nous donne un nouveau portrait. Là, c'est Jackie, avec Nathalie Portman dans le rôle-titre. C'est donc Madame Kennedy qui, une semaine après le drame, raconte à un journaliste l'assassinat de son mari à Dallas. Le 22 novembre 1963, Neruda était un portrait totalement fantasmé du poète communiste en fuite, et on ne savait jamais vraiment ce qui était vrai, ce qui était faux. Là, on sait que tout est vrai. C'est le portrait intime, fragmenté d'ailleurs, d'une femme blessée, qui boit de la vodka et qui s'empiffre de calmants, mais qui garde la tête haute et le dos droit dans son tailleur Chanel rose. Larraín reconstitue même au début de son film la fameuse émission enregistrée 2 ans avant Dallas, et intitulée Une visite de la Maison Blanche avec Madame John Kennedy, qui avait un peu plus de classe que Melania Trump, mais c'est pas très difficile.
La barre très haut.
En voyant une évocation de cette fameuse émission, évidemment, difficile de ne pas penser à ceux qui l'occupent aujourd'hui. Xavier.
D'autant plus que Trump a dégainé lui aussi une visite de la Maison Blanche sur Fox News il y a une quinzaine de jours.
Madame a voulu rappeler la couleur du tailleur de Jackie Kennedy le jour de son intronisation.
Je ne pense pas que Pablo Larraín ne fasse jamais de film sur Melania, mais pourquoi pas. Moi,
Peut-être Lisa Azuelos, peut-être.
Peut-être, voilà, saint et martyr. Bon, Jackie, moi, je trouve ça passionnant. C'est-à-dire que ça continue l'œuvre de Pablo Larraín depuis Tony Manero, depuis cette manière de revisiter l'histoire et d'en tirer des mythes à la fois tragiques, fondateurs, indispensables. Là, on est au cœur de l'histoire, puisque c'est une femme, une veuve qui a vu l'assassinat de son mari dans les pires conditions, qui a ramassé les morceaux du cerveau, qui a essayé de reconstituer la tête de son mari explosée par la balle. Elle était au cœur de ce drame. Et au lendemain de la mort de Kennedy, elle se dit, ça ne peut pas être un fait divers tragique, ça doit devenir la mythologie de l'Amérique du XXe siècle. Il faut que je construise cette histoire extraordinaire qui sera celle d'un martyr de la cause démocrate. Et effectivement, elle
devient à ce moment-là même une femme martyre.
Hein. Ah, mais elle devient une femme martyre. Elle construit vraiment le mythe autour de son mari, de son couple. Et ce qui est intéressant, c'est que les flashbacks nous ramènent à un moment où ce couple-là a été le héros d'un conte de fées. C'est-à-dire que quand elle fait visiter la maison pour la première fois, elle est à la fois timide, à la fois apeurée, à la fois partageuse de ce luxe, elle ne veut pas y croire, et on nous raconte que Kennedy adorait le final de Camelot, une comédie musicale de Broadway, et quand on écoute les paroles, c'est à Camelot, on a tout nettoyé, il fait beau maintenant, c'est-à-dire le Kennedy aurait pu construire Camelot s'il avait vécu, c'est-à-dire une Amérique effectivement débarrassée de sa ségrégation, débarrassée de son racisme, où la classe prolétaire aurait été remise à sa place, c'est-à-dire la belle, noble place qu'elle occupait à l'époque, et elle sent qu'effectivement effectivement, on l'a sortie comme ça, violemment, de ce conte de fées pour la plonger dans la tragédie. Et elle se dit, de cette tragédie-là, je vais faire un pan charnière de l'histoire du XXe siècle aux États-Unis. Et c'est exactement ce que construit et déconstruit incessamment Pablo Larraine, avec des allers-retours sur 5 jours. Donc, ce ne sont pas vraiment des flashbacks ni des forwards.
C'est très fragmenté.
C'est très fragmenté.
C'est un peu puzzle.
C'est un Rubik's Cube, mais qui est passionnant parce qu'il traverse justement, tous ces morceaux-là sont reliés par cette détermination, par la lassitude. Elle veut que les hommes politiques marchent derrière le corps de son mari. Elle veut que ce soit aussi beau que pour Abraham Lincoln. Et c'est effectivement le grand sujet de la reine. Quand est-ce que l'histoire devient un mythe?
Sans qu'on comprenne, encore une fois, comment il a pu faire ce choix pour Neruda et presque l'opposé pour Jacques Hildon.
Alors effectivement, moi qui ai beaucoup aimé Neruda, cet antibiotique et ce désordre organisé.
T'as dit antibiotique, hein, mais peut-être que...
biopique. Oui.
J'ai compris antibiotique. Je me suis dit, il y a peut-être des problèmes.
Si j'ai dit antibiotique, c'est que j'ai des problèmes, mais je crois avoir dit antibiotique. Mais enfin bon, c'est pas grave. En tous les cas, là, c'est effectivement le processus totalement inverse. Je trouve que l'idée de l'interview qui dit authenticité, c'est comme ça que ça s'est passé, très habile, mais j'ai trouvé ça d'une froideur absolument clinique. Effectivement, on comprend le propos, elle a cru que ce qu'elle était en train de devenir allait demeurer, et ça a été interrompu, et donc elle a reconstruit quelque chose qui est ce veuvage admirable, etc. Bon, j'ai tout compris ce qu'on me racontait, j'ai trouvé ça totalement froid, j'ai trouvé Nathalie Portman... Oscar, comme ça, sans y mettre de condescendance, c'est très bien, mais c'est exactement le rôle à Oscar, c'est-à-dire, elle est parfaite, elle est magnifique, elle est extraordinaire, elle lui ressemble, elle est exactement, c'était comme ça qu'elle était, oui, ok. Et je n'ai pas été émue une seconde, alors que tout le monde se souvient où il était le jour où ça s'est passé, et que c'est quand même un des événements les plus bouleversants de notre XXe siècle. Bon, donc voilà, Pablo Larraine, moi je le préfère quand il est un peu désordonné.
Jean-Marc.
Oui, moi, vraiment à l'inverse. J'étais assez dubitatif devant Neruda et j'étais vraiment séduit par Jackie. Et j'aime bien la froideur du film. Effectivement, il montre le chagrin de Jackie Kennedy, mais il ne cherche pas du tout à nous le faire partager, à nous le faire communiquer, un petit peu à nous le faire comprendre quand même. Et au fond, ce que raconte le film, c'est donc une opération de communication réussie. Et ce qui est très beau, c'est que Jackie Kennedy, qui donc va prendre en charge la fabrique du mythe Kennedy et du mythe Jackie, elle le fait en même temps dans un état second. C'est-à-dire totalement sonné, totalement abattu.
D'où les calmants,
voilà.
D'où les...
Et groggy. Et Portman est remarquable pour jouer à la fois cette froideur, ce côté un peu robotique, et en même temps ce côté totalement assommé. Et je trouve que sa composition, effectivement, je pense que dès le début du film, elle pensait à la possibilité d'être nommée aux Oscars, mais elle est vraiment très, très impressionnante. Et puis la mosaïque temporelle du film, qui mélange 4 lignes narratives différentes, est quand même très gracieuse. Le film est vraiment réussi, je trouve.
Pierrot. Ah, oui. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai pas été vraiment ému, mais j'ai été absolument fasciné.
C'est pas fait pour qu'on soit ému.
Je crois que c'est pas fait. Mais c'est justement cette déconstruction dont vous avez tous parlé qui fait que Jackie devient un personnage. Vous l'avez dit, un peu somnambulique, un peu comme ça. Mais c'est ça qui m'a fasciné. C'est quelqu'un qui s'apprête à toujours entrer en scène et qui sait pas si elle va le faire. C'est-à-dire qu'elle recule, elle avance. Et je me suis dit, c'est comme une actrice. Ça m'a rappelé. Alors, le style n'est pas tout à fait pareil. Vous allez peut-être dire que j'exagère, mais ça m'a un peu rappelé Jenna Rollands dans Opening Night de Cassavetes. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, et un peu ivre, donc Jenna Rollands l'était beaucoup, mais celle-là, elle l'est un peu, elle est sous calmant et tout, et c'est est-ce que je vais arriver à faire, est-ce que je veux même le faire? Alors elle va voir ses enfants, elle repart, elle traverse les pièces, elle traverse les couloirs, et je trouve que ce côté, est-ce que je vais arriver à faire ce que je veux moi-même, et ce que je ne veux pas au fond, c'est-à-dire de faire de mon mari un mythe, je trouve qu'il le fait avec cette fragmentation et avec beaucoup, beaucoup d'intelligence.
C'est donc Jackie, le film de Pablo Larraine. Pas de réaction sur ce film. Moonlight, il y a beaucoup de films américains ce soir, qui a reçu le Golden Globe du meilleur film dramatique et qui est nominé pas mal d'ailleurs pour les Oscars, hein, je crois.
Huit.
Moins que La La Land, mais quand même.
Huit nominations.
C'est le deuxième film de Barry Jenkins qui traite d'un sujet, il faut le dire jusqu'alors tabou, qui était l'homosexualité dans la communauté afro-américaine. Et il le fait en suivant de manière assez classique le passage à l'âge adulte d'un jeune black d'un quartier défavorisé de Miami, dont la mère est toxico. Il est joué par 3 acteurs qu'il interprète à 3 âges de sa vie. L'enfant plutôt frêle, l'adolescent indéterminé, l'adulte plutôt musclé. C'est Alex Ebert, Ashton Sanders et Trevor Terod. Et c'est un film tiré d'une pièce de théâtre que je ne connaissais pas, de Tarell Alvin McCraney. Et ça a été réalisé sous, il faut-il le rappeler, le règne d'Obama, favorable, contrairement à son successeur au mariage gay. Film d'1h50, Jean-Marc.
C'est un film qui est arrivé un peu précédé d'une aura de chefs-d'œuvre comme La La Land, avec énormément de nominations aux Oscars, des Golden Globes.
Et pour toi, c'était légitime.
On a un peu envie de faire retomber la pression, oui, et dire c'est juste un bon film. Ce que le film est vraiment, on voit vraiment qu'il y a un cinéaste talentueux derrière, mais je trouve le film un peu inégal. Il est construit donc en trois temps. Je trouve que le deuxième est plutôt le moins fort. Il y a par moments, dans les moments les moins convaincants du film, ça rappelle ce film qui s'appelait Precious, sur une adolescente noire obèse, avec le côté très outré qu'il y a dans le cinéma de Lee Daniels. Mais le film n'est pas que ça. Et dans les interviews qu'il donne, Barry Jenkins dit par exemple qu'il aime énormément le cinéma asiatique, qu'il a construit en trois volets en pensant à Free Time de Xiao Xian. Et on pense surtout beaucoup à Wong Kar-wai, surtout dans la dernière partie, où l'homosexualité du personnage principal se libère pas tout à fait, mais en tout cas il y fait face. Et là, c'est quand même la partie la plus émouvante du film. Donc le film est très sensible, très incarné, un peu fabriqué quand même. On en voit les coutures. Voilà, c'est un bon film.
Plus défendu par les Arocs cette semaine que tu ne le dis toi.
C'est vrai.
Pierrot.
On peut espérer que ce film généreux changera des opinions homophobes au Texas, on peut toujours l'espérer, oui, puisque ça a du succès.
Et
pas seulement au Texas, mais ailleurs, hein, bien entendu. Non, mais je crois qu'il faut arrêter. Je ne sais pas si vous avez
arrêter
vu
quoi.
Non, mais arrêter les publicités. Je ne sais pas si vous avez vu l'affiche.
Ah oui, c'est
époustouflant, exceptionnel, magnifique, merveilleux, éblouissant, un chef-d'œuvre, un film comme on n'a jamais vu. Le New Yorker, enfin des gens comme ça. Résultat, les gens ne peuvent qu'être évidemment déçus, parce que je suis tout à fait d'accord que c'est très sensible. Le dernier épisode est vraiment très émouvant.
Oui,
la rencontre dans le café, voilà, ça c'est très bien. Alors, il faut quand même dire peut-être à ce monsieur, Barry Jenkins, qu'il a tout à fait le droit de filmer comme il filme, bien entendu.
Il filme pas mal, pourquoi ?
Ah ben non, c'est quand même... Le premier mouvement de caméra est affreux. Oh. Enfin, cette espèce de plan-séquence qui tourne trois fois autour de lui-même, qui aboutit n'importe où. Mais là aussi...
Arrêter de commencer les films américains par des plans-séquences qui surjouent la virtuosité. C'est La La Land,
c'est ça.
C'est vraiment le cliché où le metteur en scène montre sa virtuosité.
On peut juste peut-être l'amener voir quelques films à la Cinémathèque et dire qu'on peut commencer un film autrement...
Avec des plans fixants dans une chambre de bonne, oui, c'est vrai.
Pourquoi comment pas, Chantal Ackerman en a fait.
Oui, c'est bien ce que je dis.
Bon,
c'est bien ce que je dis.
Non, voilà. Je trouve que c'est un film généreux, mais dont la réputation est un peu trop éclatante.
Mais le problème, c'est qu'on parle aussi de films. On peut très bien juger aussi de la réception des films, mais je pense qu'il est mieux de juger.
Non, mais attends, il y a des clichés, Jérôme. Le personnage de la mère, par exemple, le personnage de la mère, plus aucune comédienne n'ose jouer la droguée comme ça. Ça. C'est du vieux film des années 50, et même pas. Et ça a obtenu en effet des nominations aux Oscars. Il y a plein de clichés.
Xavier.
Le rôle de la mère, il est compliqué parce qu'il est commun à la fois à l'auteur de la pièce et au réalisateur. Ils ont tous les deux grandi avec une mère addict au crack, donc ils ont vu la violence. Le réalisateur est hétéro, l'auteur de la pièce est gay, donc ils ont chacun un point de vue sur cette violence qu'ils ont éprouvée dans leur jeunesse. Après, je suis entièrement d'accord avec vous sur le premier chapitre, il y a un côté quand même un peu tape à l'œil de la mise en scène. Il faut exister, il faut bien se démarquer du côté théâtral, de la dramaturgie, du scénario. Mais néanmoins, à chaque chapitre, maladroitement, mais avec une idée quand même assez forte de cinéma, c'est comment filmer le chaos que traverse et que vit l'enfant, l'adolescent.
Oui, bien sûr, oui.
Et enfin, la sérénité. Tu as tout à fait raison, Jean-Marc, sur les références à Wong Kar-wai et sur la fin. C'est-à-dire la sérénité qui passe à travers la lumière, l'utilisation du scope, la beauté
des
gars,
d'ailleurs, je trouve,
qui est magnifique. Et là, il faut reconnaître que l'émotion, elle est d'abord portée par le texte, elle est portée par la situation, par les deux comédiens. Et je pense aussi par tout ce dont s'est débarrassé, le film s'est débarrassé,
oui,
c'est-à-dire exactement de son mouvement, de son côté un tout petit peu je me fais voir. C'est absolument bouleversant. L'ellipse, elle tombe exactement là où il fallait qu'elle tombe.
Il fait pas le malin avec
il
sa
fait
caméra.
Pas le malin, et il y a quand même effectivement quelque chose d'absolument, mais moi j'étais brisé quand même. Je trouve que cette fin, cette dernière demi-heure, elle est magnifique. Et effectivement, aujourd'hui, être noir, gay et en plus délinquant dans l'Amérique de Trump, ça va être compliqué pour qu'il y ait une suite à ce film-là. Quoi.
Encore une fois, un sujet,
en prison.
Un sujet qui n'a jamais été traité comme ça au cinéma. Jamais. Jusqu'à maintenant, il faut aussi le rappeler. Daniel.
Un film où on ne voit que des blacks. Bon, ça aussi, c'est unique. Hein, parce que voilà, c'est, ils sont... Ah si, il n'y a que des blacks. Je suis désolée. Bon, oui, enfin, oui. Bon, peu importe. Mais moi, j'ai été très, très, très sensible. Bon, c'est vrai que bon, il y a un petit peu de maniérisme peut-être dans les deux premiers épisodes, mais on est dans des endroits très moches. On ne parle que de chagrin, que de violence, que de harcèlement scolaire, que de harcèlement d'homophobie, et en même temps voyage une douceur incroyable dans ce film. Il arrive à nous raconter des choses effroyablement douloureuses avec une sorte de, voilà, de soutien de douceur. Il y a quand même quelque chose qui vous apprend à vivre et on va quand même survivre à tout ça et on va quand même arriver à une sérénité. On devient un adulte qui fait des muscles, qui se met des fausses dents en or et puis qui tout à coup retrouve effectivement quelqu'un qu'il a connu et qui tout à coup se dit bah ouais, on peut s'asseoir dans un café et parler. Et puis se prendre par le cou. Et je veux dire, c'est beau. Il y a une espérance sur des choses désespérantes. Et moi, je trouve que ça fait du bien.
C'est aussi un film sur le déni de l'homosexualité quand la société vous y force. Il le dit à un moment. Voilà. Il le dit après toi, personne ne m'a touché. Je n'ai touché personne. C'est aussi très violent là-dessus.
Moonlight, le film de Barry Jenkins. Oui, une réaction dans le studio Sacha Guitry. Monsieur, bonsoir.
Bonsoir. Oui, c'est un film très sensible. Et c'est contre un tabou, non seulement de l'homosexualité, mais chez les Noirs. Oui. Ça fait deux tabous. Et le sujet du film, c'est quand même plus que, au-delà de l'homosexualité, c'est deux homosexuels. C'est-à-dire que c'est pas deux folles, voilà ce que je veux dire par là. C'est vraiment trois tabous qui enfoncent complètement. C'est un film d'une sensibilité. Le seul réserve, c'est l'histoire des prisons. Bon, c'était inutile qu'ils étaient en prison, mais je crois que c'est un film vraiment à voir.
Merci. Un jour dans la vie de Billy Lane, le nouveau film d'Ang Lee, alors c'est qui raconte la tournée, la parade même, d'un soldat qui a été blessé en Irak avec son régiment d'infanterie. Et c'est fou, hein, défilé, réception. Moi, je me suis un peu ennuyé, mais voilà. Tournée en HD, un film qui commence par aujourd'hui l'héroïsme américain, un nouveau visage. Ça va nous raconter pendant un temps assez long. Xavier, tu le conseilles ou pas?
Ah non, pas du tout. Je ne sais même pas pourquoi Ang Lee s'est retrouvé dans ce projet-là.
Presque dithyrambique cette semaine.
Est-ce que c'est pour remercier Donald Trump d'avoir pris la défense de Taïwan? Est-ce qu'ils l'ont menacé de lui retirer sa carte verte? C'est un film patriotique d'une bêtise absolue qui colle deux époques qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre et qui caricature le personnage de Kristen Stewart qui est censé être justement la pacifique de cette histoire-là et qui est ramené à trois sénateurs, mais vraiment d'une lourdeur et d'une pesanteur. C'est vraiment un film extrêmement douteux, sans aucun intérêt formel. Non, vraiment, non.
Pierre,
pas tout à fait d'accord. Moi, j'ai marché. Moi, je trouve ça.
Enfin, c'est le cas de le dire. On marche. Hein,
on marche. Oui. Non, mais je trouve que par exemple l'acteur principal, dont j'ai oublié le nom,
Joe Alwyn,
qui a un peu le regard qu'avait Timothy Bottoms dans Johnny Got His Gun. Il a cette espèce de. On sent qu'il est voué à quelque chose de tragique, et on le voit là pendant une pause. Moi, je trouve que le personnage de Kristen Stewart dit très très bien les choses comme il faut. Alors, ce qu'on peut peut-être reprocher au film, c'est d'être à effet, c'est-à-dire que bien sûr il y a des il y a des fusées de tous les côtés. Évidemment, ça rappelle automatiquement les combats et il va de l'un à l'autre comme ça. Mais je trouve que ce film a une force. C'est pas du tout un film patriotique. C'est un film sur
qui il faut.
Non, pas du tout.
C'est un film patriotique. C'est un film sur exactement comme Altman pouvait décrire à l'époque l'horreur de l'Amérique. Ben si, c'est quand même ça. Je fais court parce que je crois qu'il faut... Ah.
Rien ne ressemble plus à un défilé qu'à un défilé, à une réception qu'à une réception. Il y a un moment donné où on a le sentiment
les monstres que Ang Lee montre, c'est quand même le personnage de Steve Martin, le personnage de tout le monde. Enfin, c'est une horreur cette
Daniel.
Société américaine.
Non, moi j'ai trouvé ça d'une vulgarité, d'une laideur épouvantable, avec quand même des personnages, des caricatures insupportables. La pom-pom girl évangéliste, enfin je veux dire non merci quoi. quand même.
Ça, c'est... On n'a pas ça en France et je le regrette.
Oui,
on n'a pas de pom-pom girl.
Aujourd'hui, j'ai des terrains, on ne change pas.
Non, non, mais l'héroïsation de l'héroïsme, voilà, je veux dire, c'est un propos qui a du sens, mais qui là, avec des scènes de guerre néo-eastwoodiennes, complètement ratées. Enfin, moi, j'ai pas adhéré. J'aime l'Anglie de Salé Sucré, de Brokeback Mountain. Enfin, je veux dire, bon, mais là, non, je suis désolée.
Mais ce personnage, il me semble que ce personnage de Pom Pom Girl est une dinde. Elle est représentée comme ça.
Ah oui, ça.
Non, mais d'accord.
C'est pas Anna Arendt, si vous en avez compris.
Oui, d'accord. Mais c'est plus nuancé que ça, je trouve.
Jean-Marc.
Moi, je trouve le film passionnant.
Passionnant.
Déjà, oui, je regrette qu'on ne le verra pas en 3D et 120 images secondes.
Oui, c'est ça.
Les gens qui, aux États-Unis, ont réussi à le voir dans ces conditions de projection m'ont dit que c'était une expérience visuelle inouïe, parce que technologiquement, le film est vraiment à la pointe de ce qu'on peut faire et que cet hyper-réalisme visuel produit beaucoup d'étrangeté. On peut le voir quand même en 60 images secondes, ce qui fait la différence avec l'ordinaire des films. Et effectivement, il y a une précision de rendu qui donne quelque chose d'un peu halluciné à tout ce qu'on voit. C'est-à-dire que la précision visuelle, au lieu de donner plus de réalité, donne un sentiment de très grande étrangeté. Donc le film est quand même formellement passionnant. Après, je trouve que sa critique de la fabrique de la propagande aux États-Unis, qui est assez proche du film de Pablo Larraine. C'est-à-dire que c'est un peu le même sujet que Jackie. C'est comment on fabrique une mythologie, une propagande. C'est extrêmement bien fait parce qu'il montre l'envers d'un spectacle.
Non, justement, que moi, justement,
ah non, c'est remarquable.
Pas
du tout, c'est-à-dire qu'il ne charge pas les individus qui sont ces soldats, mais il charge énormément l'utilisation par un gouvernement de l'usage qu'on va faire de cette expérience qui n'est pas vécue comme héroïque par ceux qui l'ont fait. Et la manière dont c'est intégré à un concert de Destiny Child, dont il va filmer le revers, c'est vraiment remarquable.
Un jour dans la vie des Billy Lynn, c'est le nouveau film d'Ang Lee. On reste un peu avec les militaires, avec Red Ding, le Danny Boone, on va aller très vite, avec Alice Paul dans le rôle assez saillant d'une femme gardienne de la paix, gaffeuse au possible, mais fille, il faut dire, du ministre de l'Intérieur, Michel Blanc, et qui rêve d'intégrer, non pas le masque et la plume, mais le groupe d'élite du Raid. Un peu pareil. où elle est mise dans les mains de Danny Boone, alias Eugène Froissart, qui est un peu comme moi, un formateur à gros biceps, ultra misogyne, avec qui elle doit coffrer le redoutable gang des braqueurs, les Léopards. Il faut ajouter, c'est pas mal, à la distribution Yvan Attal, en terroriste serbe déguisé en drag queen pour infiltrer la Gay Pride, que j'ai bien aimé. Urbain Cancelier, en chef de l'État, assez convaincant. Il y a aussi Sabine Azéma. Les fins de sont un peu dures parfois. C'est un peu Bienvenu chez les flics. Vous me dites si vous aimez ou pas, Jean-Marc.
Quoi dire,
pas les vitains.
Disons, c'est un film qui prend soin d'essayer de faire rire tout le monde, à la fois les gens misogynes et les gens féministes, à la fois c'est un film qui dénonce le népotisme mais en même temps qui dit que quand même c'est pas mal, que cette fille elle est présentée à la fois tout son des machos, mais elle est quand même vraiment nulle. Donc voilà, le film essaie de faire rire un camp et l'autre en permanence. C'est d'une faiblesse dans l'invention comique vraiment atterrante. Les acteurs sont vraiment pas bons, donc pour moi c'est un désastre total.
Daniel.
Oui, c'est triste parce que Danny Boone se remettra jamais de Bienvenue chez les Ch'tis. Je veux dire, je crois qu'il vaut mieux que ce qu'il se donne à faire. Donc là, c'est quand même terrible. Donc il y a une situation, elle veut être entre Red et elle en est incapable parce qu'elle fait que des gaffes et voilà. Donc il y a une situation et le même gars qui revient de la première image à la dernière. Et on n'a pas besoin de Pierre Murat pour raconter la fin parce que dès les 5 premières minutes,
il l'a pas
on
vu.
A compris. Ah bon, non, mais on n'aurait même pas besoin qu'il l'ait vu et qu'il nous raconte la fin parce que dès les premières minutes, on sait comment ça va finir. Donc c'est consternant et riche hein, parce qu'il y a des effets spéciaux et tout. Et c'est
ça explose, il y a même une explosion assez coûteuse.
Magnifique, coûteuse. Un château.
C'est la reconstruction de ce décor détruit.
Xavier.
C'est une horreur absolue. C'est-à-dire quand on voit la bande-annonce, on se dit, bon, ça va être le procès des misogynes, elle va se révéler intelligente, forte. Non, elle est con jusqu'au bout, mais con, quand même. Je veux dire, c'est terrible. Elle a deux fois, pratiquement à côté d'elle, le méchant, et tout le monde le comprend que c'est un méchant. Il y a qu'elle qui est bête au point de le laisser partir. Je passe les caricatures de la Gay Pride avec les travelots qui passent devant elle. Oui. Ah, non, mais c'est horrible. C'est un film qui, évidemment, a été écrit en 1970, pas corrigé depuis, filmé aujourd'hui. C'est une catastrophe. C'est le pire de La Cage aux Folles et le pire des films de Belmondo auxquels il fait référence. Donc, voilà, non.
Avec un truc très violent aussi sur les journalistes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment.
Ah oui, la code de LCI
les
aussi.
Les flics sont exemplaires, mais vraiment, les journalistes, c'est des pourris, quoi.
Ah, des pourris, des nuls. Enfin, je veux dire. Non, c'est vraiment horrible, c'est poujadiste, non.
Ce qui est très fort, c'est quand même que s'appeler Alice Paul et jouer à un film sur la police, c'est pas mal, quand même. Vous avez remarqué le truc.
Paul Alice.
Red Dingue, Danny Boone. J'avais inscrit aussi le film du prolifique réalisateur sud-coréen Hong Sang-soo, oui, Yourself and Yours.
C'est une merveille.
Alors bon, on va le mettre on va faire une fin avec beaucoup de conseils. Et
c'est une petite merveille, une fois de plus, parce qu'il a réussi beaucoup ces derniers temps. Mais ça, c'est absolument magnifique. Bon, l'histoire, c'est juste une femme qui boit un peu trop.
Oui.
Comment?
Elle a droit à 5 verres par jour.
Voilà.
Plus de bière,
quand même. Mais ça, c'est rien. C'est vraiment le minimum syndical, si j'ose dire. Et alors là, son fiancé, on lui dit qu'elle picole dans des bars en faisant un peu d'esclandre.
Et qu'elle se bat, même.
Voilà. Et donc, à partir de cette scène-là et de leur rupture, dont il ne se console pas, Yang Sang-soo fait un film, mais alors très court, comme il sait faire, mais absolument délicieux, où on ne sait pas si elle ment.
Assez compliqué, en fait.
Mais oui, très compliqué, parce qu'on ne sait pas qui elle est, elle prétend avoir une sœur jumelle, mais c'est sûrement pas vrai, puisque c'est elle. Et en même temps, ça serait peut-être possible. Enfin, c'est la multiplication des personnages, et tout ça pour faire une éducation sentimentale du gars, puisque, finalement, il va faire beaucoup de progrès. Je vous le conseille, absolument, c'est magnifique.
Oui, moi aussi, c'est mon conseil, c'est un film absolument génial. Il y a quelque chose de sidérant dans l'économie de moyens du film et ce qui produit d'infini. C'est à la fois métaphysique, c'est un traité existentiel inouï. Ça s'inscrit dans une filiation de cinéma qui irait de Vertigo d'Hitchcock à Mulholland Drive de David Lynch, c'est-à-dire ces films qui jouent sur le trouble. Romer, ça vaut pour tout Hong Sang-soo, alors que spécifiquement celui-là, c'est vraiment Vertigo, oui, et Mulholland Drive. Parce qu'il y a un personnage tout simplement de femme dont on n'est pas sûr si c'est la même ou si c'est une autre, et que du coup ça interroge la nature même de ce que c'est qu'un spectateur et son rapport aux images. Et c'est un film qui raconte que l'amnésie, c'est la condition absolue de l'amour, et que pour aimer, il faut oublier. Et c'est vraiment... c'est sa démonstration, il en fait quelque chose de bouleversant.
Daniel.
Oh bah c'est un délice absolu, voilà, c'est une merveille, cette femme qui est elle-même et une autre, on ne le saura jamais. Moi, j'ai convoqué mon copain Verlaine parce que, voilà, c'est une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre qui m'aime et qui me comprend. Voilà, c'est ça le film et c'est un bonheur total.
C'est une merveille, tout le monde en a dit beaucoup de bien et de façon magnifique, j'ai pas grand chose à rajouter. Si ce n'est qu'il reste beaucoup de mystère une fois que le film est achevé, sur l'existence ou pas de cette jumelle, sur la raison pour laquelle il s'est cassé la jambe. Voilà, et je trouve ça très très beau parce que justement, c'est un film qui ne se circonscrit pas dans son récit mais qui travaille énormément le hors-champ, le hors-récit, et c'est magnifique.
C'est donc le nouveau film de Hong Sang-soo. Vous avez le droit de citer, mais vraiment citer un autre conseil pour finir, Xavier.
Alors je laisse mon coup de cœur à Pierre. Je vais citer Tempête de sable d'Elit Zexer, qui est un film magnifique justement sur la culture arabe, sur le deuxième mariage auquel assiste une jeune femme.
Moi, je cite un film qui sort mercredi dans 3 jours. Le concours
de Claire Simon, documentaire passionnant,
notre immense documentariste
sur la fémis,
sur l'entrée, qui est un film extrêmement anxiogène et formidablement réalisé une fois de plus. Voilà, on est à l'intérieur de ce désir de cinéma d'une foule et la façon dont
avec tous les prétendants. Alors, c'est un film un peu long, 2 heures et demie, mais ça vaut le coup pour comprendre de ce qui se passe à l'intérieur, y compris des têtes des candidats au concours de la fémis, Jean-Marc.
Moi aussi, c'est un film un peu long. C'est La femme qui est partie de Lav Diaz. C'est un film magnifique. Il a eu le Lion d'or au dernier festival de Venise. C'est un récit de vengeance. C'est un film très romanesque et en même temps très distendu dans la présentation de son récit. Et c'est très, très beau.
Bah, c'était le même. C'était
alors, redonne le titre. Parce
alors,
que
c'est La femme
pas
qui est partie,
compris.
Qui dure, attention, c'est vrai, 3h45. 3h45.
Oui, non, mais c'est sublime.
C'est un mélo sublime. C'est un mélo sublime.
La
Lave Diaz.
Alors celui-là est sorti en revanche. Hein.
Oui, il y en a un qui va sortir de 8h40 bientôt.
Pardon ? Oui, j'ai vu à Berlin l'année dernière.
Je m'en réjouis.
De 8h40. Un film de 8h40 ? Oui, absolument.
Il faut prendre des sandwichs.
Sur la guerre d'indépendance aux Philippines. Et c'est une merveille.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume. Franceinter.fr. Merci Daniel Eman, Xavier Le Herpeur, Jean-Marc Lalanne et Pierre Murat pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. Et ce soir, Rosa Chaguitry et la technique Olivier Dupré, Clotilde Thomas ainsi que Fabien Capel. La réalisation était de Didier Lagarde. Vous notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque et la Plume, c'est le jeudi 16 février. Je vous attends nombreux, je le sais, à 20h au studio Sacha Guitry pour deux émissions. L'une consacrée au 27e prix des auditeurs du Masque et la Plume et l'autre à l'actualité du théâtre. Dans une semaine, on parlera de livres. À dimanche prochain sur France Inter, évidemment. Thank you.